Minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous êtes nombreuses, mesdames, à réagir au témoignage de Julia et à celui de Fatma, à les encourager dans cette nouvelle vie, dans cette remontée, et puis à les conseiller et à être d'accord avec le fait que tout cela raconte une part de notre société, un côté sombre de notre société. Mais merci pour vos messages d'encouragement. Je parle de Brigitte, d'Agathe. Agathe qui nous conseille d'ailleurs un excellent podcast France Culture, des hommes violents, immersion avec 12 hommes condamnés pour violence conjugale et condamnés par la justice à participer à un groupe de parole durant 6 mois. Podcast documentaire en 6 épisodes. Merci Agathe pour ce conseil. Nous sommes avec Christiane. Christiane, oui. Alors, dites-moi tout, maintenant nous avons tout notre temps.
Oui, alors moi c'était plus soft par rapport à ce que l'on vient d'entendre. Néanmoins, c'est quand même assez sérieux. Alors voilà, ma réflexion est partie, j'écoutais tout à l'heure le début de l'émission sur la 2, où le Premier ministre rencontrait un certain nombre de gens. Et j'ai réagi à la dame qui représentait les seniors par rapport au problème. Donc, si vous voulez, moi, ma question, enfin, mon sujet d'interrogation ce soir, c'est les seniors par rapport au Covid. Alors, elle a dit d'abord quelque chose de... Elle était très dynamique, cette dame. Elle a dit quelque chose de très juste, et c'est que dans les seniors, il faut quand même faire des distinctions entre les gens de 70 ans qui sont fringants comme elle et ceux de 80-95 qui sont moins fringants. C'est quand même, elle a dit, il y a deux générations, et c'est vrai, ça me paraît quand même quelque chose d'important. Là où je ne la suis pas du tout, c'est qu'elle, elle, comme d'autres, hein, elle exprimait un point de vue qui est assez majoritaire, semble-t-il, et qui n'est pas le mien, à savoir que les seniors, et particulièrement les seniors jeunes, se sentent discriminés, rejetés, tout ce qu'on veut, parce que on leur recommande de pas sortir ou de sortir le moins possible, on leur recommande de pas voir leurs petits-enfants, etc., etc. Alors, moi, je me sens pas du tout ça, parce que d'abord, premièrement, par rapport au Covid, nous, les gens de 70 et quelques, bon, déjà, je trouve que pour beaucoup, certes, on est à risque sur le plan médical, mais on est très, en général, on est à l'abri sur le plan social. Pas tous, mais un certain nombre de gens, on risque pas de perdre notre travail. Voilà. Mmh. Le Covid, certes, il y a des gens qui ont des retraites minables, et ça, mais le Covid ne joue pas là-dessus. Bon, le Covid risque peut-être de notre santé, mais ne risque pas de nous faire perdre notre travail. Bon. Et quand on voit la situation des jeunes, qui a d'ailleurs aussi été évoquée ce soir, quand on pense que 70% des étudiants doivent avoir un petit travail pour survivre et qu'ils l'ont plus, enfin, je trouve que il faut quand même remettre un peu les choses à leur place. Nous, après tout, l'idée, alors évidemment ça ferait encore bondir la moitié de la Terre, mais ça fait rien, on peut toujours la laisser comme ça, le dire en l'air. Après tout, l'idée de confiner les anciens, et je pense surtout à ceux justement de cette la jeune génération des vieux, ceux qui ont autour de 65, 70 ans, pour qu'au fond on puisse... que ceux-là soient protégés et que les autres puissent vivre tranquillement, travailler, aller à l'école, aller à l'université, etc. Et que nous, on se protège. Et c'est pas très difficile quand même de se protéger, de limiter ses relations sociales. Alors, je comprends bien, il y a un enjeu. On se dit, par exemple, je pense à tous ces gens qui voyageaient beaucoup, comme moi d'ailleurs. Eh ben, après tout, quand est-ce qu'on voyagera? Si ça se trouve, on voyagera plus. Bon. Et là, je trouve que c'est vrai que ça, moi, c'est quelque chose qui est très dur pour moi. Non. Mais je me dis, voyons, nous, on n'a pas connu la guerre. On a rien connu de dramatique. Alors, ben là, on peut peut-être supporter un peu. Enfin, on n'est pas les plus malheureux. Et on peut, on peut peut-être éviter d'en rajouter en quelque sorte. Et on peut justement, ben oui, alors il y a les petits soins des petits-enfants, ne pas voir ses petits-enfants. Oui, bon, d'abord on peut les voir avec des protections, etc. Et puis on peut se voir par Internet, on peut, surtout à l'époque où là, beaucoup de petits-enfants vivent à l'autre bout du monde, alors bon, on peut, ça c'est je pense que le problème est un petit peu différent pour les gens qui ont 90 ans, qui sont bien plus... Nous, on peut, enfin, les gens là de 70, on peut lire, on peut s'occuper, on peut se promener dans des endroits où il n'y a pas de, où il n'y a pas de Covid, etc. Donc, si vous voulez, cette espèce de d'hypersensibilité en disant oui, on nous met de côté. Ben oui, moi je suis pas d'accord. Moi je me sens pas d'ailleurs du tout mise de côté et je pense que ben, il faudrait avoir un peu de retenue puis peut-être un peu de sagesse aussi en disant ben ouais ben bon ben c'est comme ça puis ça va passer.
Alors vous... moi Christiane, j'essaie de me mettre à votre place.
Oui.
Je ne rentre pas dans cette catégorie donc mais je me dis, si j'étais là, si j'avais 65 ans, 70 ans, et que tout à coup, on me dise, bah, monsieur, vous avez 65 ans, 70 ans, et puis bah, vous êtes une catégorie à risque, donc vous n'allez plus bouger. J'aurais quand même cette impression, je vous le dis, hein,
oui.
impression un peu de payer pour tous ceux qui ont un comportement à risque, en fait. Je ne vois pas pourquoi une partie de la population qui est à risque, c'est-à-dire est plus fragilisée, et encore, ça reste à prouver, parce que du moment où on se protège, c'est-à-dire que régulièrement, on se met du désinfectant sur les mains et qu'on a son masque, et qu'on fait attention, justement, comme vous l'avez très intelligemment souligné, si on limite les relations à risque, c'est-à-dire si on ne démultiplie pas la relation sociale, au nom de quoi, en fait, au nom de quoi on devrait boucler une partie de cette population ? Vous voyez, ça me semble un peu violent, moi.
Non, mais je ne dis pas complètement boucler. C'est peut-être pas... On a peut-être, ce serait excessif de boucler. Mais d'insister, d'ailleurs, personne jamais n'a parlé véritablement, enfin si, je crois qu'il y avait une fois, le président de la République avait parlé de confiner les plus de 65 ans.
Bon, oui,
c'était
oui.
Une allusion. Bon, d'accord, bien. Mais enfin, personne...
C'est violent, ça, quand même, aussi.
Violent, oui, d'accord, ouais. Oui, violent. Bon, mais, oui, d'accord, bon. Mais dans l'idée, par exemple, de réduire ses relations sociales, de les réduire temporairement. Enfin, on va bien sortir un jour de ce truc-là. Bon, de les réduire temporairement, de garder des relations téléphoniques avec beaucoup de gens, bien sûr. Moi, je passe ma vie au téléphone. Bon, il me semble que c'est quand même... est-ce que notre rôle d'ancien n'est pas de donner... Alors, attendez, je reviens un tout petit peu en arrière. Je suis absolument horrifiée par tous ces gens qui préconisent de se balader sans masque.
Oui, quand j'entends Nicolas Bedos qui dit...
Ah, ça, c'est scandaleux.
Qui dit « vivons à fond, quitte à mourir ».
Oui,
si demain il est malade, on verra s'il tient le même discours, parce que
je pense que
Nicolas Bedos aime la vie comme chacun de nous, et même la vie à fond. Et il s'est un peu emporté, notre jeune réalisateur là. C'est, je pense qu'il a,
il a, ouais, il a ça, un peu dérapé là.
Il a pas trop
mais
réfléchi.
Puis c'est un artiste, enfin,
oui, mais il faut faire attention quand on est un personnage public et que sa voix porte, vous voyez, ça fait la une de tous les...
Vous avez entendu la maire d'Aix-en-Provence et vous avez entendu Marseille, hein, c'est l'appel à la désobéissance civile. Ça, je trouve que quand même, c'est un peu gros, ça, c'est quand même... Ça me scandalise. Alors là, c'est complètement scandaleux.
Oui, mais à force, si vous voulez, Christiane, à force de voir des mesures qu'on comprend pas très bien, moi, si vous voulez fermer les bars, par exemple, à 22h. Il ne faut pas oublier que derrière les bars, il y a des entreprises, il y a des salariés. Vous parliez des étudiants, mais il y a des patrons derrière, il y a des salariés, il y a des étudiants dont c'est le petit boulot qui leur permet de manger tous les mois. Les restaurants, les bars, les salles de sport. Moi, quand je passe devant, je trouve que ce sont des corps de métier en fait, qui respectent à la lettre tout en fait, et d'un seul coup c'est là que tout le monde on attrape le Covid là. Il faut quand on prend une mesure comme ça, il faut aussi calculer ce qui va se passer après, la conséquence, si vous voulez.
Vous croyez pas que ça a été calculé?
La conséquence, moi je vais vous dire, je suis passé devant un lycée à Lorient en début de semaine.
Ouais.
J'ai juste vu à la sortie du lycée de Lorient, un môme sur 10 portait un masque. Alors, je ne dis pas que c'est plus difficile pour les jeunes de porter un masque, mais bon sang, pourquoi il n'y a pas le proviseur avec des pions qui au moins cette sortie de classe où les mômes restent là, amassés à l'entrée.
C'est-à-dire que c'est l'entrée. Et l'entrée
Oui, mais il faut mettre un masque. Il faut mettre un masque. Qu'on ait 16 ans.
Je peux vous dire, parce que c'est un peu. Je suis assez proche de ce milieu-là. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, mon fils est proviseur, et je peux vous dire qu'ils passent leur vie à se bagarrer, précisément à l'intérieur. Mais pour tout dire, ils se bagarrent à l'intérieur, mais ils ne peuvent pas non plus aussi aller se balader sur le trottoir. Et la réaction des gosses, justement, et ce n'est pas étonnant ce que vous dites, c'est qu'ils se bagarrent à l'intérieur, donc dès que les gosses sont sortis, ils enlèvent leur masque. Ça, c'est... Bon, et ce n'est pas normal du tout.
Non, mais si
bon.
Vous voulez, en fait, voilà, moi, je me dis simplement que les restaurateurs, les patrons de bars, quand ils passent eux aussi devant un lycée qui voit ça, et c'est là que les choses se passent. Je vais vous dire, j'ai une ado à la maison, moi. Je suis obligé de la batailler pour qu'elle mette un masque, pour qu'elle se lave les mains quand elle rentre, parce que si je ne lui dis pas ou si sa mère ne lui dit pas, elle ne le fait pas.
Oui,
donc, du coup, en fait, je pense que c'est vécu par toutes ces entreprises-là, les restaurants, les bars, un peu de manière... C'est de manière assez injuste, parce que tout à coup, en plus, c'est un peu les montrer du doigt, alors que je pense que ça se passe ailleurs, l'histoire.
Je serais assez proche de penser la même chose que vous, avec de surcroît le fait que aller chasser des bars, ils vont, ça c'est le grand argument, et je crois que c'est pas faux, ils vont se fourrer s'entasser dans des appartements, et ça va être pire. C'est ça, je crois aussi. Moi, je suis pas très, très favorable non plus à ces interdictions de bars, puis de restaurants, etc. Mais l'idée, c'était surtout... D'abord, si vous voulez, tout le monde se sent persécuté, de toute façon. Là, c'est les bars, mais c'est... Il faudrait que... Je dis pour les seniors que ce serait bon peut-être que l'on adoucisse plutôt les choses.
Oui, parce que je pense que c'est une partie de la population. Je vais vous dire, les personnes dont vous parlez, Christiane, dont vous faites partie, sont les personnes qui respectent le plus les règles. Et finalement, quand on respecte les règles, eh bien, on n'est pas en danger. On sait aujourd'hui à peu près, on connaît encore, il y a plein de choses qui sont mystérieuses dans ce Covid, mais au moins, on sait comment ne pas l'attraper. Et il me semble, moi, c'est mon feeling, il me semble que les gens dont vous parlez, 65, 70, 75, pour moi, ce sont les personnes que je vois être les plus responsables dans leur manière de vivre ce Covid, de se protéger, de mettre des masques, et de ne pas démultiplier les relations sociales. Donc, ce que vous prenez, je pense que cette partie de la population le fait déjà.
Oui, elle le fait déjà. Écoutez, là, j'ai quelques exemples. Par exemple, bon, moi, vivant en province, j'ai plein de, mais ancienne parisienne, j'ai plein d'amis qui viennent me voir. Pour certains, par exemple, mon beau-frère devait venir après une communion. Dieu sait pourquoi, puisque les communions se font en novembre, en octobre maintenant, je lui ai dit, écoute, j'aimerais mieux que tu viennes avant, pas après.
Mmh.
parce que ça me paraît bon. Et j'en ai d'autres qui ont sensiblement le même âge, qui organisent un mariage auquel j'étais invitée. J'y vais pas. Je suis désolée, mais
Vous avez raison, vous avez raison.
je pense qu'il faut. J'ai demain un enterrement d'un de mes meilleurs amis. Je n'irai pas à la petite. Non, parce que je trouve que bon, enfin bon, c'est vrai qu'il faut. Mais je ne me sens pas pour autant frustrée, etc. Vous voyez ce que je veux dire?
Complètement. Mais
C'est pas.
pour revenir à la fermeture de ces bars à 22h et de ces restaurants, je crois. Vous ne pensez pas que les gens vont se précipiter jusqu'à 22h justement pour profiter à fond et finalement cette mesure, en fait, je comprends que les patrons de bars ne la comprennent pas, ne la saisissent pas, et donc à partir de ce moment-là que ça les mette en colère.
Oui, alors ils ont défendu, enfin je crois que c'est, oui, Castex a défendu l'argument, il semblerait qu'il y ait une étude américaine, mais je ne l'ai pas lue ailleurs, qui ait détecté que c'était justement,
Dans les endroits publics comme ça?
ouais, voilà, que un des endroits. Or, enfin moi, comme j'y vais pas, je peux pas trop me rendre compte. Mais c'est vrai que l'on me dit, puis enfin on le voit assez, que ça semble. Enfin, les patrons de bar font respecter autant qu'ils le peuvent.
La
Enfin, puis
plupart, en tout cas, la plupart.
ouais, peut-être aurait-il été mieux de, comment dirais-je, de vérifier, enfin de faire des contrôles plus importants. Plutôt que de fermer, c'est sûr que la fermeture c'est dramatique, c'est ça, on est tout à fait d'accord là-dessus,
C'est vrai
c'est
qu'il y
tout
a une
à fait.
réalité. Bon, et c'est vrai
Maintenant,
que
je
bon,
ouais, maintenant je.
je ne sais pas si on est bien placé hein, pour en parler, parce qu'il y a sûrement il y a une réalité économique pour tous ces
Oui, il y a
gens
une
qui vont
réalité
se voir
économique.
vraiment pénalisés. Mais après, voilà, vous parlez de cette étude américaine qui est sûrement voilà qui donne sûrement des conclusions montrant que c'est dans ces endroits qu'on a limité ou qu'on a fermé que le virus se transmet, mais les conséquences de ces décisions, pour moi, les gens vont se réunir clandestinement,
Ouais.
vont se réunir. Bon, et
Non, mais
on voit que bon,
je crois surtout que ce qui est terrible, c'est que là, la société, moi je vois les gens comme un peu fous en définitive, enfin au sens où on est tous un peu perdus, parce que on a toujours l'impression qu'il y a une solution à tous les maux. Ben là, on est en train de la chercher, la solution, et moi, j'ai l'impression de vivre, si vous voulez, quelque chose d'un peu équivalent à la guerre, un peu. La guerre qu'on a, enfin moi j'ai craint beaucoup quand j'étais petite parce que mes parents m'ont tellement, ma grand-mère m'a tellement raconté ce qu'était la Première Guerre mondiale et la deuxième que bon et j'avais très peur moi quand j'étais jeune, même jeune adulte. Je me disais, oh là là, si jamais il fallait l'exode, tout ça, ça me faisait très très peur. Bon, puis après, ça s'est calmé. Mais mon père était encore très très craintif en voyant des guerres, enfin, en voyant des prémices de la guerre tous les 4 matins. Et tout ça avait disparu. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Et en définitive, c'est tout de même moins terrible parce que la guerre, c'était pire d'une certaine façon, me semble-t-il, enfin.
Non, mais il y a eu un sentiment lors du confinement, ces rues désertes, la non-connaissance de ce qui nous arrivait. Hein. En fait, on
Ouais.
marchait un peu à l'aveugle hein, sur ce
Ouais.
virus. Il y avait beaucoup de morts. Oui, on était dans une sorte de guerre contre ce petit machin-là qui faisait des dégâts incroyables. Et donc, du coup, on était dans une. Oui, on était dans ce type d'atmosphère, malheureusement. Maintenant, il est vrai que le déconfinement a détendu les gens. Bon, mais ça va être difficile de les faire
Et puis
reculer.
je crois aussi qu'un des aspects qui joue beaucoup, c'est que on est en train de découvrir ce qu'est la science. La science, c'est pas des sciences exactes. La science progresse par tâtonnement, par dialectique. Or là, on s'aperçoit, puis elle progresse pas très très vite. Or, on avait l'impression que tout allait à une vitesse folle. C'est pas vrai du tout. Et les espèces de dates, enfin, c'est pas des atermoiements, mais c'est ce qui se passe sur le plan de la science à l'heure actuelle. Mais c'est tout à fait normal. C'est dans la droite ligne de toute l'épistémologie depuis toujours.
Oui, c'est un peu le souk, hein, quand même. Moi, je trouve. Mais bon. Les avis des uns, des autres qui se contredisent, c'est un peu...
Parce que d'habitude, toutes ces interrogations, par exemple les recherches sur le sida, si vous voulez, prenons un exemple relativement récent, ouais. Mais toutes ces recherches sur le sida, elles restent entre spécialistes, entre The Lancet, etc., qui se racontent, qui se disputent, qui se contredisent, qui font... Et puis petit à petit, la vérité finit par s'établir. Mais elle finit par s'établir, elle commence pas par s'établir. Là, si c'est le souk, c'est un souk normal, j'ai envie de dire. Ce souk-là, tous les scientifiques qui ont fait de la recherche vous diront, c'est comme ça. Seulement d'habitude, on n'a pas aux 20h les dernières découvertes ou les dernières hypothèses de Monsieur Machin et de Madame Truc. C'est ça la différence. Maintenant, tout se passe sur la place publique, enfin sur la place médiatique plutôt. C'est pour ça que ça, ils se contredisent. Mais pourquoi ? Mais ils se sont toujours, tous les scientifiques se sont toujours contredits avant d'arriver à une vérité définitive. D'ailleurs, on n'est jamais sûr qu'il y ait des vérités définitives, mais enfin, il y a des vérités un peu plus sûres que d'autres, si vous voulez. Mais il n'y a aucune vérité qui soit définitive, sauf les vérités mathématiques, qui sont des vérités construites.
Non, puis je vois, vous voyez, au 739-21, votre témoignage déclenche beaucoup de réactions. Valérie vous dit, rien n'interdit madame de se confiner elle-même, les rôles ne conviennent à personne. On a Aurore qui nous dit qu'elle n'a pas vu beaucoup de bars où les prescriptions étaient respectées à la lettre sur Paris et qu'une fois alcoolisée, les gens baissent l'attention et c'est naturel. C'est assez vrai, Aurore.
Pourquoi ça justifierait en somme la fermeture des bars.
Complètement. Et Lisa nous dit pourquoi ne pas utiliser la police municipale pour les groupes à la sortie des écoles et des lycées, complètement. Au lieu de coller des contredanses, comme je les vois en ce moment faire à nouveau, il est certain qu'il serait beaucoup plus utile à la sortie des écoles. Mais bon, ça c'est une constatation de ma part à Paris, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, mais je trouve qu'il y a quelques contradictions.
Moi je fuis les foules, hein. Je fuis les foules, j'y vais le moins possible. Parce que j'essaye d'éviter, voilà. C'est... Et puis j'essaye de, comment dirais-je, de... Oh, ne, non, oui, pas paniquer, parce que... mais d'essayer de penser, enfin, d'avoir beaucoup d'informations et de réfléchir sur ces informations. Et je pense que ça permet de distancer un peu, de distancer les choses. Mais en tout cas, vraiment, Olivier, je vous assure, creuser le problème, le fait de dans la contradiction, c'est vraiment le propre de la recherche scientifique.
Oui, mais de toute façon, c'est le propre de la construction. Je le dis souvent, hein, la contradiction, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on l'échange entre... dans n'importe quel secteur, eh bien, il fait avancer. Hein. On n'est pas obligé d'être d'accord avec celui avec qui on échange. Et puis, dans cet échange, on s'aperçoit parfois qu'on a raison, parfois qu'on a tort. C'est comme ça qu'on s'élève, de toute façon. Donc, je pense que comme vous le dites, dans cette recherche, il y a des choses qui sont dites, d'autres contestées. Et on avance, de toute façon. Je suis très optimiste, je vais vous dire, sur la suite des événements. Il va falloir être patient, mais je pense qu'avant l'été, alors c'est pour ça que je dis qu'il va falloir être patient parce
ouais,
que
faut être patient.
On est à la sortie de l'été, mais je pense que voilà, été 2021, on aura trouvé un rempart à cette saloperie. Donc,
j'espère.
Je vais me permettre de vous laisser d'écouter Micheline qui nous a appelé et qui aimerait vous parler, Christiane, et qui veut nous donner un peu son ressenti. Bonsoir Micheline.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment ça va?
Je vous aime beaucoup, j'aime bien vous entendre, je vous écoute tous les soirs.
Merci beaucoup Micheline.
Voilà, oui, parce que je voudrais bien porter mon petit grain de sel aussi moi.
Ben, je vous en prie, on vous écoute.
Alors, je peux parler?
Exactement, Christiane vous
voilà,
écoute et on vous écoute.
Oui, parce que je voudrais dire là, j'ai deux petits-enfants qui sont un chirurgien qui est obligé de laisser il est chirurgien dans les os, dans l'ostéopathie. Il est obligé de laisser ses patients en attente. Et j'ai sa femme qui est anesthésiste réanimatrice.
Oui.
Et j'ai mouvement de dire que au moment qu'on a eu là au mois de mars, eh bien, ils ne se sont pas amusés tous les deux. Parce que vraiment, ils étaient vraiment dans le centre du coronavirus,
oui.
Virus. Et j'ai entendu vous dire alors il vaut mieux, moi je dis, se protéger plutôt que d'attraper ça. Et croyez-moi, mon pauvre, Olivier, vous êtes bien optimiste parce que je crois, moi, qu'il n'y aura pas avec un vaccin avant au moins 2 ans. Croyez-moi.
Ah oui, vous pensez ça, vous, Micheline?
Oui, je vous écoute, Olivier.
Oui, je suis d'un tempérament optimiste, moi, vous savez. Mais
Oui, je sais, vous êtes optimiste.
Hein. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Micheline? Est-ce que c'est l'avis des...
Moi, je crois, parce que d'après ce qu'ils m'ont dit, que ça recommence, d'ailleurs, ça repart. Alors, je pense qu'ils vont encore laisser leurs malades en attente, qui ont besoin d'opérations, de hanches et tout ça, pour s'occuper encore, il y a encore des lits qui manquent, il y a encore tout ça.
Oui.
Si vous saviez comme ils ont été embêtés eux-mêmes, ils n'avaient même pas ce qu'il fallait, les surtabliers, vous savez, qu'ils mettent pour se protéger encore, en approchant ces malades-là, ils n'avaient même pas ça encore. Ils avaient les masques et tout ça, vraiment. Mais il manquait de lit, il manquait de tout, ils étaient surmenés et tout. Il vaut mieux pas l'attraper, mon Dieu, il vaut mieux se protéger.
Alors vous préconisez quoi, Micheline, vous?
Moi j'ai 93 ans,
oui.
Et j'écoutais ça, j'ai entendu dire que je mets un masque quand je sors. Ça oui. Ah oui, parce que j'ai entendu parler, j'ai entendu dire que c'était pas de la rigolade qu'ils ont subi. Ah oui, et là vraiment je voulais intervenir parce que comme je sais ce qu'ils ont pensé, ça me dépassait, quoi. Enfin, il faut se protéger. Et vous savez qu'un vaccin, il y en aura certainement un. Certainement. On va quand même trouver un vaccin. Mais ce n'est pas pour demain, croyez-moi. Ah non, moi, je ne suis pas optimiste comme ça. Enfin, ce n'est pas que je suis pessimiste quand même. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais vous savez, il faut voir la réalité en face. Hein.
Oui,
et ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle ce que
Micheline,
l'on vit en ce moment, à tout point de vue.
Micheline,
c'est terrible.
Micheline,
terrible.
Donc vous êtes plutôt d'accord avec Christiane, qui préconise quand même que...
mettre des masques.
Oui, mais voilà. Christiane, elle parlait d'une partie des jeunes seniors qui doivent prendre leurs responsabilités et
se
confiner.
Ben voilà, qui viennent pas se plaindre après s'ils sont malades.
Ah non, mais elles ne se plaignaient pas.
Pas.
Se plaignent pas.
Non,
vous ne vous plaignez pas, Christiane?
Ah non, pas du tout.
Non, mais c'est un constat que cette dame faisait, quoi, que Christiane faisait.
Mm-hmm.
Voilà. C'est vrai, il y a beaucoup en principe, les seniors quand même mettent des masques, hein, faut dire. C'est plutôt les jeunes qui en mettent pas. Quand elle les voit dans des booms et tout ça, ils ont pas de masque, croyez-moi. Et après, ils reviennent contaminés.
Oui, alors voilà. On évoquait ça, justement. Micheline, vous en pensez quoi de l'attitude des plus jeunes? Et vous préconisez quoi, à votre avis?
Les plus jeunes, à leur âge, évidemment, on a tous été insouciants. On voit pas la réalité comme elle est. Vous voyez, on pense à s'amuser, c'est normal. Quand on a 20 ans ou 25 ans, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, c'est là, c'est normal. Mais au moins... quand même, qui se protège. Voilà, c'est ça.
Ben,
évidemment,
oui,
quand on boit,
oui,
quand on boit un coup, tout ça, on est obligé d'enlever le masque, ça c'est vrai. Mais enfin, qu'ils le remettent après.
Bah écoutez, moi, je peux apporter un petit témoignage. Moi,
oui,
au niveau de mes
allez-y, Christiane. Je
mes petits-enfants qui ont entre 20 et 25 ans. Ma petite fille est étudiante à Barcelone, qui n'est pas un endroit particulièrement...
Non, en ce moment,
ils sont extrêmement précautionneux avec les histoires de masques. C'est tout juste si, par rapport... là, je les ai eus, elle et son amie, ils sont venus. Bon, ils font très, très, très attention. C'est peut-être les... Et puis, ils ne vont plus en boîte du tout. Hein, ça, ils,
de toute façon, elles sont fermées.
Savez,
elles sont fermées, les boîtes. Les...
Oui, mais l'Espagne est particulièrement contaminée en ce moment. Hein,
ils ne font pas de fiesta. Ils ne vont pas sur les plages, qui sont d'ailleurs à moitié fermées aussi. Et
oui.
Ils sont extrêmement, comment dirais-je, précautionneux.
Oui, excusez-moi, parlez, je vous coupe la parole.
Non, mais je dis, mais c'est un témoignage, et mon autre petit-fils qui vit à Vienne, c'est pareil, enfin, ils sont très... c'est un témoignage très très minuscule. Peut-être que les plus jeunes, 15-18 ans, et puis c'est toujours pareil.
C'est l'âge où on voit pas tout le danger.
Non, bien sûr.
Ils n'approfondissent pas. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est normal.
Et c'est normal.
C'est normal, c'est leur vie.
C'est l'insouciance,
ça,
on ne peut pas, on ne peut pas leur reprocher.
On avait l'insouciance, moi j'ai 93 ans. Je me rappelle, moi j'ai eu une jeunesse mais merveilleuse, merveilleuse. On n'avait pas tout ça. On allait danser, on allait tout partout. C'était formidable. Mais maintenant, on a toutes ces saloperies-là qui nous viennent, on ne sait pas d'où. Et alors, il faut les supporter malheureusement. Je dis bien malheureusement. C'est comme ça. Mais les jeunes, ça se comprend.
Enfin, ça ne vous a pas empêché d'arriver à 93 ans dans un état qui est magnifique, madame, si je peux me permettre.
Et Micheline, justement, vous, à 93 ans, comment est-ce que vous vous protégez? Quelles mesures vous mettez en place?
Moi, je mets mon masque, je me lave les mains, et puis j'ai des petits gants que j'ai achetés, je mets des petits gants. Parce que je vais au kiné par deux fois par semaine et je mets mes gants.
D'accord.
Voilà.
Et les petits-enfants?
C'est des gants fins.
Est-ce que
les petits-enfants, je ne les ai pas devant moi. Hein. Ils sont ailleurs, ils font des grandes études et tout ça. Je ne les ai pas.
D'accord,
alors,
mais vous ne les voyez pas pour l'instant? Vous ne les voyez pas pour l'instant?
Non, mais c'est un moment parce qu'ils font des grandes études et ils auront certainement, j'en ai un justement, j'y pense, il est à Bordeaux, hein, un petit-fils. L'autre qui est à Nîmes, bon, on ne parle pas trop de Nîmes, si.
Non, ça va, je peux vous dire, Nîmes, j'y suis à Nîmes. Ça va, c'est pas terrible pour l'instant.
C'est pas dangereux? Bon,
non, pour l'instant,
ça va.
Pour l'instant,
ça va pour lui.
On
mais
pas, on
j'espère
pas,
quand même qu'ils mettent les masques hein, aussi. Enfin, moi, je ne peux pas être derrière eux parce qu'ils sont à 900 km de moi. Alors je peux pas les voir vraiment.
Bon, mais en tout cas, vous n'êtes
pense.
Pas exposé, c'est ça, parce que pour les personnes de votre âge aujourd'hui, c'est aussi quand les petits-enfants viennent voir grand-mère le week-end, et c'est
oui,
là aussi ça peut poser problème.
Ils viennent avec un masque.
Oui.
Voilà, tout
voilà.
Le monde a son masque. Même chez moi. Ah oui.
Ah oui, chez vous, vous avez votre masque.
Oui, là, non, quand je suis toute seule, non, parce que je suis
d'accord.
Toute seule maintenant. J'ai perdu mon mari il y a 13 ans, et maintenant je suis toute seule. Bon, je ne mets pas de masque quand même toute seule. Je ne vais pas me contaminer toute seule.
Non, bien sûr. Mais et Micheline, quand vous dites que ça va durer encore longtemps, qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Oui, c'est pas fini cette histoire-là. C'est pas fini, croyez-moi. Ah non.
Christiane, vous en pensez quoi, vous?
Espérons qu'on aura quand même un vaccin. Moi,
oui.
Je l'espère de tout mon cœur, vraiment. Mais vraiment,
oui.
c'est...
Moi, je suis peut-être pas aussi pessimiste que Micheline. Mais je suis très, très intéressée à la chose parce que ma fille travaille en Thaïlande. Elle est à Bangkok. Et
oui.
Elle est partie, ça a été ça a été extraordinaire de partir le 20 août à Bangkok pour prendre un poste là-bas. Mais quand elle a pris ce poste, elle ne pensait pas, c'était évidemment, elle l'avait demandé bien avant le Covid, elle ne pensait pas qu'elle allait être coincée là-bas, parce que maintenant elle est coincée.
Oui, elle a dû faire une, faire une quarantaine aussi quand elle est entrée dans le pays.
Écoutez, la quarantaine, d'abord, il y a eu, avant de partir, des papiers, il y avait une ramette de papier pour justifier son départ, mais là-bas, ça a été épouvantable. Il n'y a pas du tout de cas, hein, ils sont très très protégés, la quarantaine a été dans un hôtel
très strict.
Ça a été, elle a eu au bout de 8 jours et 2 tests tous les 4 matins. Elle avait le droit d'aller voir la piscine, mais pas de nager dans la piscine qui était en plein air. Et tout le personnel de l'hôtel était en tenue de cosmonaute sans arrêt. Et on lui déposait son plateau sur son paillasson et on lui téléphonait en lui disant votre déjeuner est arrivé, vous pouvez le prendre. Ça a duré 14 jours.
Voilà. Mais nous, moi, j'ai trouvé une chose que notre gouvernement a laissé un petit peu trop aller les choses. Voilà. Il aurait dû être comme ça, comme peut-être pas comme à Bangkok, mais enfin, mais assez dur quand même. Le virus ne serait, il y aurait peut-être pas eu une deuxième épidémie.
Ah oui, vous pensez.
Voilà. Je crois que c'est là
où on voit. Mais c'est, enfin, on en discute souvent avec ma fille. C'est pas, enfin, on n'imagine pas du tout le côté, comment dirais-je, soumis. Les Orientaux d'abord. Ils sont
d'accord.
Moi, je dirais plutôt organisés et pas soumis. Vous voyez, ils sont respectueux des règles.
Non, oui, disons que le terme de soumis est un peu péjoratif, mais...
Non, mais ils sont soumis, ces gens-là, c'est vrai, c'est le mot qu'il faut dire. Ils sont quand même soumis, hein, plus que nous, parce que nous, on est toujours rébarbatifs à tout.
Oui.
Les Français, on est un peu,
ça discute, les Français, ça discute. Ouais.
On n'est jamais content.
Ça négocie.
Exactement, c'est plus que négocier, on n'est jamais content. Non, oui, mais là, là, vraiment, il faut prendre des mesures, moi je dis draconiennes, et c'est vrai. C'est comme ça qu'on va l'éviter. Éviter, on ne sait pas, c'est moi qui dis ça, hein. On ne sait pas si on va l'éviter.
Et alors vous, mesdames, j'ai une question à vous poser à l'une et à l'autre.
Oui.
Si demain, dans 2 mois, 3 mois, on trouve un vaccin, est-ce que vous faites vacciner tout de suite?
Immédiatement.
Tout de suite. Alors là, même pour la grippe, voyez. J'attends mon vaccin pour la grippe.
Ça y est, j'y vais demain pour le vaccin. Je viens de recevoir mon papier, la grippe demain.
Oui, moi je l'ai aussi.
Et le Covid après-demain.
J'ai mon papier. Mais avant, j'ai mon fils qui est pharmacien. Alors c'était lui qui me vaccinait. Mais malheureusement, il a vendu sa pharmacie. Alors ça a pu être lui. Enfin, je vais chez un autre pharmacien acheter le vaccin et j'irai chez mon docteur ou mon docteur viendra chez moi pour me vacciner. Quoi.
Parce que vous voyez, moi, je connais plein de personnes qui ne veulent absolument pas se faire vacciner le jour où
ridicule.
Ça sortira.
Oh. C'est ridicule.
Parce qu'ils disent qu'il n'y aura pas assez de recul par rapport aux effets secondaires du vaccin et qu'il est hors de question.
Pour le virus, là ?
Oui, pour le Covid.
D'accord. Ça...
Mais vous savez bien que même pour la grippe, alors que quand même ça a fait ses preuves...
Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées non plus. Hein.
J'en ai rediscuté avec une amie il y a quelques jours et qui me dit « Ah, mais moi, je vais prendre, comme tous les ans... » le vaccin homéopathique. Alors, je lui dis que c'est une connerie, le vaccin homéopathique. C'est pas du tout un vaccin homéopathique. C'est un machin pour soigner homéopathique.
Ah ben non, il vous pique dans le bras. On sent rien. Oh, c'est rien du tout.
Elle prétend que le vaccin, elle l'a fait faire une fois, elle prétend que ça l'a rendu malade, etc. Anti-vaccins, c'est épouvantable.
C'est comme ça, les gens qui sont pas pour le vaccin, ils sont comme ça. Ça les rend malades, ça les rend ceci, ça les rend cela.
Mais parce quand vous pensez qu'il n'y a que 30% du personnel médical qui se fait vacciner contre la grippe.
Mais vous verrez,
moi,
vous verrez.
Je vois mes enfants, là, on est, moi, je suis dans le milieu médical avec mes petits-enfants. Bon, et mes fils, d'ailleurs. Alors, voyez, je connais le truc. Alors, non, il faut se faire vacciner.
Mais vous verrez,
surtout à notre âge.
Vous verrez, hein, Micheline, que lorsque le vaccin va être annoncé, que ça va être une sacrée paire de manches de faire vacciner tout le monde. Parce que, quoi qu'il arrive, il va falloir se vacciner. Pour justement, pour que le monde redémarre, pour que tout le monde reparte au travail, que les avions repartent, qu'on revoyage,
voilà,
en tout cas que toute l'économie reparte.
Voilà,
et vous allez voir, vous parliez des Français tout à l'heure.
Je suis de votre avis.
Et ben, je peux vous dire qu'il y en a un paquet de Français qui disent déjà qui ne voudront pas. Oui.
Mais à Marseille, je crois que c'est la maire de Marseille, la même qui fait le bazar là, en ce moment, pour défendre ses cafetiers, etc., et qui a dit, l'autre jour, je l'ai entendu, je ne sais plus si c'est la présidente de la région, la présidente de la communauté urbaine, ou si c'est la maire de Marseille, qui a dit, moi, en aucun cas, je ne me ferai vacciner, je ne veux pas me faire vacciner, elle est médecin, hein, et je ne veux pas que mes enfants soient vaccinés. Alors,
bon, écoutez, ça la regarde, hein, après tout. C'est
oui, non, mais ça la regarde, mais quand on a une fonction comme la sienne...
Ah oui, comme elle a, c'est vrai.
C'est très grave,
oui.
Hein. C'est très, très grave.
C'est vrai. Elle devrait, au contraire, montrer l'exemple.
Là, ça va. Vous verrez aussi qu'il y aura, de toute façon, des prises de position par des personnages publics et des officiels comme
bien
ça.
Sûr,
et
bien
je vous dis qu'on n'est pas... ça sera une sacrée paire de manches, hein, cette histoire.
Oui, mais enfin,
dites,
bon, je pense
Olivier,
que si, écoutez,
c'est vrai.
On y arrivera quand même. Bon, qu'on ait le vaccin,
oui,
puis
force,
après...
À force.
Oui, mais enfin, Micheline, tout à l'heure, vous disiez les Français...
Le 2e mai 68.
Vous disiez les Français... Hein, ils discutent de tout, ils contestent
tout,
vous savez bien que je dis la vérité pour le vaccin. Ça va être difficile de, de faire admettre
vrai,
à tout le monde
ça. Vous avez raison. Ça, c'est vrai, je suis d'autre avis. Moi, en tout cas, je me ferai vacciner. Hein. Enfin, si je suis encore en vie, parce qu'à 93 ans, hein, je ne sais pas ce que le lendemain va être fait. Enfin, pour l'instant,
vous m'avez l'air en pleine forme,
Micheline. J'ai toute ma tête, j'ai tout ça, croyez-moi.
Ah, ça fait plaisir de vous entendre, parce que je suis un peu plus jeune que vous. Ah oui, c'est vous pouvez pas savoir le plaisir que ça fait. J'entendais tout à l'heure. Ah, vous savez pas, madame, à quel point ça nous fait plaisir. J'entendais tout à l'heure Pierre Cardin, qui est de votre âge, je crois, et qui parlait aussi et qui continue à faire ses affaires, etc. Mais pour les gens, moi j'ai 78 ans, hein, mais je vous assure
vous
que...
Vous n'êtes pas vieille, madame, vous n'êtes pas vieille, vous avez encore la vie devant vous.
Oui, mais enfin, c'est pas vraiment sûr. Mais quand on vous entend, on est heureux. Mais vous pouvez pas savoir. Oui.
Oh, écoutez, je vais demander la permission à Olivier de parler tous les soirs.
Bah voilà.
Ah bah oui.
Vous allez être mon joker, Micheline. Bon, mesdames.
Olivier, je vous aime bien. Je vous écoute tout le temps.
Ah bah c'est gentil.
Oui, moi aussi.
Oh, ça c'est vrai. Ma radio préférée, le matin, Europe 1. Voilà.
D'accord.
Europe 1, j'écoute
Mathieu.
Rendez-vous, le médecin, là, rendez-vous, sans rendez-vous.
Mélanie Gomez, oui.
Valérie Gomez, j'écoute quoi donc avant.
Stéphane Bern, là, qui est arrivé, vous l'écoutez ?
Je m'intéresse à beaucoup de choses, hein.
Vous écoutez Stéphane Bern un peu l'après-midi aussi ?
Un petit peu, oui, avec Mathieu.
Avec Mathieu Noël ?
Oh, il est chouette, lui.
Ah oui,
il est chouette, Mathieu. Hein.
Ah, lui, c'est...
Oh là là
il
là
est
là
extraordinaire.
Il est marrant. Mais Stéphane Bern aussi, moi, je l'aime bien. Hein. Ils sont bien tous les deux, d'ailleurs. Je trouve qu'ils vont bien.
Ils vont très bien ensemble, complètement.
Hein, c'est
complètement
vrai, hein.
Super.
Oh, oui.
Bon, en tout cas, vous me voyez ravi de vous avoir entendu. Déjà, je trouve formidable d'entendre deux personnes qui ne se connaissent pas échanger comme vous l'avez fait ce soir. C'est formidable.
Ben voilà,
et puis, n'hésitez pas à rappeler, hein, Christiane, comme Micheline.
Je crois que ça fait 3 fois qu'on discute.
Ah bon, bah, très bien, très bien.
Ouais, on avait 3 fois qu'on discute, mais pas avec moi.
Non, pas avec vous, mais avec Olivier.
D'accord.
Ah oui, avec Olivier, oui.
Bah écoutez, je vous...
Oh, il aime bien discuter, Olivier. Hein. Il est gentil comme tout, il a le cœur sur la main. Il aime bien aider les gens et tout ça.
Bah il faut, Micheline,
c'est
il faut.
Vrai.
Il faut.
Je dis, mon Dieu, j'écoutais ces deux pauvres dames, là, mon Dieu,
oh là
quelle
là.
Horreur. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour elle, je le ferais, mais je peux pas, malheureusement, je peux pas. Bon, mais je le ferai, je crois. Écoutez, il y a bien des gens quand même qui peuvent les aider.
Oui, y a, on a reçu pas mal de numéros de téléphone.
De mail, vous avez, oui, c'est ça.
Oui, qui vont déjà.
Et qui leur donnent des adresses.
Exactement.
Et tout ça.
Exactement.
Pour se renseigner, pour avoir du travail. Cette brave dame-là qui voulait travailler dans les EHPAD, ben écoutez, elle aurait du travail, ils en demandent à tour de bras.
Oui, complètement, alors, complètement.
Ben
non, mais
oui.
Vous avez raison. Je vais être obligé de vous quitter, Christiane et Micheline, parce que j'ai Bailo qui attend là maintenant de prendre la fin de l'émission. Donc je vous embrasse, passez une bonne nuit toutes les deux.
Merci, bonsoir
Micheline. Au revoir Micheline, au revoir Christiane.
Au revoir les filles.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir Olivier.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.